voix nues. Cette semaine, France Culture rend hommage à Tommy Ungerer, récemment disparu. En 2012, Martin Kénéen s'entretenait avec le dessinateur. Ce soir, l'enfance et les sortilèges de Tommy.
À la fois dessinateur et écrivain, Tommy Ungerer est peut-être d'abord célèbre dans le vaste monde pour ses livres pour enfants. La saga des Mélops, débutée en 1957 aux États-Unis, puis, dans le désordre, forcément, il y en a tant, les aventures de Crictor, des Trois Brigands, de Jean de la Lune, Rufus, Otto, Benito, l'homme au chapeau volant, et tout dernièrement, Zloty. Tommy Ungerer, en 1957, votre premier livre pour enfants met en scène une famille de cochons, les Mélops, et s'intitule « Mélops Go Flying », qu'on pourrait traduire par « Les Mélops s'envoient en l'air ». Alors faut-il y voir un clin d'œil à ce dont nous parlions hier, à savoir vos cochoncetés d'adultes portées sur le sexe ?
Non, alors là, il n'y a pas de... Si, il y a des fois un peu de sexe dans mes livres d'enfants. Alors là, ça m'a pour donner un exemple. J'ai quand même sorti ce livre... Mais tous mes derniers livres d'enfants sont des livres engagés. C'est qu'ils ont donc des sujets qui ont un but précis. Par exemple, Le Nuage Bleu, c'est sur la guerre civile. Ami, c'est l'histoire d'un noir, un nègre, qui vient dans un quartier blanc. Bon, et qui n'a pas d'amis et qui se fait des amis. Et ensuite, j'ai fait un livre sur la Shoah, carrément, qui s'appelle Otto. Alors là, on retrouve évidemment toutes mes expériences de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, dans les scènes de bataille, mais il s'agit d'un enfant juif auquel on donne un teddy bear, etc. Il a son petit copain de palier qui lui est arien, et puis alors un jour il vient, et le petit garçon dit à sa maman, est-ce que je pourrais aussi avoir une étoile jaune, etc., etc. Et finalement, c'est l'horreur, n'est-ce pas. Avant que la Gestapo vienne emmener l'enfant juif, David, il donne son teddy bear au petit garçon. Ce teddy bear avait, en jouant, il avait pris une tache de couleur sur le visage. Et bon, le petit Allemand, il perd sa mère dans les bombardements. Là, on voit les scènes. Et puis, l'enfant juif, il a disparu dans un camp d'extermination. Mais il se retrouve après la guerre parce que ce teddy bear, après des aventures de bataille, du GI, etc., il atterrit chez un antiquaire. Et ce sont des années bien plus tard que l'Allemand, touriste qui a survécu, trouve ce teddy bear, ça va dans la presse, et il retrouve son ami juif après toutes ces années. C'est pas, ça, c'est des livres qui à mon avis, il devrait y en avoir plus. Je pense que, quand on pense que chaque année, vous avez dans les 3000 nouveaux titres qui sortent à la foire de Bologne, et que ce sont vraiment, en général, toujours des histoires de peluches, mouchi-michi, etc., des trucs... Et alors là, par exemple aussi, j'ai mon grand ami Maurice Sendak qui avait fait un livre tout à fait mignon, A Kiss for Little Bear, un baiser pour le petit. Alors en antidote, j'ai sorti mon livre Pas de baiser pour maman, n'est-ce pas ? Moi, j'avais une répugnance quand j'étais enfant d'être embrassé par ma mère qui débordait de tendresse. C'était vraiment. Alors j'ai fait un livre Pas de baiser pour maman. Donc tous ces livres, les premiers livres, c'est toujours comme je disais, chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Et c'est pour ça que j'ai fait une espèce... Tous mes premiers livres, c'est en le fond une réhabilitation d'animaux qui sont normalement détestés. J'ai un livre sur un rat, j'ai un livre sur une pieuvre, sur un serpent, sur un vautour, sur une chauve-souris, etc. Mais toujours avec quand même des conneries. Et finalement, ils sont triomphants parce que justement, ils peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas. Alors là aussi, c'était dans un sens de réhabilitation. Mais je veux dire que, dans le fond, à la base, pour démarrer avec le livre d'enfant, c'est un peu quand même égoïste ou égotiste, si vous voulez. Je fais des livres qui m'auraient plu quand j'étais petit. Et alors, je suis vraiment toujours été en forte contradiction avec les pédagogues qui disent qu'il ne faut pas traumatiser les enfants, etc. Alors que moi, dans mon livre, il y a toujours des éléments de peur. Mais les enfants, en fin de compte, n'ont jamais peur. Même dans les Trois Brigands, tous les gens foutent le camp, mais quand les Trois Brigands tombent tous sur la petite fille, là, dans son truc, elle n'a pas peur. On sous-estime complètement les enfants. D'abord, on n'utilise pas un vocabulaire assez grand, surtout aux États-Unis, n'est-ce pas? En principe, on est limité par un certain nombre de vocabulaire. Alors, moi, mais dans les trois brigands, je ne dis pas un fusil, je dis un tromblon. C'est quand même formidable pour un enfant, un tromblon.
Mais justement, quand on regarde vos dessins d'enfants, qu'on retrouve dans À la guerre comme à la guerre, ces dessins d'enfants qui ont été conservés par votre mère et que vous avez conservés, il y a beaucoup de violence, de brutalité. Il y a même un petit dessin qui pourrait paraître mignon avec Vive Mickey, mais Mickey, il a un couteau, un arc, des flèches, un pistolet à la ceinture. Vous, vous avez eu très peur quand vous étiez enfant, Tommy Ungerer, et c'est pour ça que ça transpire, ça transparaît dans vos écrits pour enfants.
Donc j'avais surtout peur de l'obscurité ou des trucs comme ça. Comme dit, je suis arrivé à le surmonter. Parce que je dis, il n'y a pas de courage sans peur. Il faut d'abord avoir peur et on a le courage ensuite. Et ça, les enfants ont une qualité d'adaptation formidable. Donc je fais maintenant un projet justement aussi avec Gallimard et le ministère de la Culture. On est allé dans les classes avec des séries de questions en demandant aux enfants de quoi vous avez peur. Et alors on leur donne une solution, souvent avec l'humour. L'humour aide énormément. Il faut d'abord apprendre à se moquer de sa peur. Et les enfants, n'est-ce pas? Pour moi, les enfants, ce sont des petits adultes. Ils savent d'où viennent les bébés, mais le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas d'où viennent les adultes. Il ne faut pas les sous-estimer. Les enfants, ils ont leurs opinions. Les opinions des enfants, il faut les respecter. Absolument, il faut leur demander. Moi, c'était mon grand drame. J'ai vraiment affreusement souffert comme enfant. Parce que j'étais le plus jeune de mes frères et sœurs étaient ma sœur avait 10 ans de plus que moi et mon frère 8 ans de plus que moi. Et moi j'étais le jouet de la famille. J'essayais désespérément ce qu'on écoute. J'avais déjà une opinion. J'avais déjà des opinions à l'époque, à l'âge de 7 ans, 8 ans, que j'ai gardé toute ma vie. Je trouve non. D'ailleurs aussi, pour le Conseil de l'Europe, j'ai rédigé un texte qui est le droit des enfants, où je dis aussi qu'ils ont le droit d'être punis.
Alors vous parlez des enfants et des adultes, Tommy Ungerer, pardonnez-moi d'insister, mais aux États-Unis précisément, on vous a reproché de vous adonner à la fois aux livres pour enfants et aux dessins érotiques. Or, vous le disiez, il y a toujours du sexe latent, sous-jacent dans les contes pour enfants, qu'on pense, je sais pas, à Peau d'âne, mais dans vos histoires, en particulier, je pense aux géants de Zeralda, à votre version du Petit Chaperon Rouge, en plus, les petites filles épousent bien souvent les méchants. Est-ce que vous dissociez les deux registres, adultes-enfants, dans votre production, dans vos livres, ou est-ce qu'ils entretiennent des liaisons dangereuses dans votre imaginaire?
Non. Moi, je montre les choses comme elles sont. Dans Flix, quand la mère est enceinte, elle est enceinte. Et quand elle a un bébé, elle est sur le dos, les jambes ouvertes, hein. Carrément. Bon, c'est une caniche, mais enfin, quand même.
Ces histoires d'amour entre les petites filles et les grands méchants loups ou les ogres.
Je voulais juste en finir. Excusez-moi. Tout à l'heure, je vous racontais donc l'histoire d'Otto de des deux qui se retrouvent.
Et là où ils se... ours en peluche, oui, voilà. Pendant la Seconde Guerre
mondiale. Donc il y a toutes ces choses horribles qui se passent, mais ils se retrouvent dans un living room où sur le mur, il y a des tableaux avec des femmes nues. Et alors, je reçois beaucoup de courriers, vous savez, des instituteurs qui m'envoient qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans Otto? Et un petit garçonnet a écrit, c'était les femmes nues dans le living room à la fin. Alors qu'il y avait eu toutes les horreurs, la Gestapo, les arrestations, non. Ce qui l'a vraiment impressionné, c'était les deux femmes nues. Et même dans l'édition américaine, ils l'ont enlevé. Dans l'édition anglo-saxonne, disons. Ils ont sorti les femmes nues, ils ont mis quelque chose d'autre. Mais par exemple, une fois, j'ai fait quand même une blague. C'est un livre très rare. Dans Monsieur Racine, on voit Monsieur Racine dans son living room et là, il n'y a que des tableaux où il n'y a rien de, il n'y a rien. Mais j'ai fait un tirage de 10 livres où dans chaque tableau il y avait des photos porno. Et alors après ça, on les a enlevés et on les a sortis ensuite.
Il faut rappeler que La Bête de Monsieur Racine, c'est un livre pour enfants.
Aussi un livre pour enfants, oui.
Je ne sais pas. Alors à propos de votre travail précisément, quelle découverte formelle en matière de dessin ou d'écriture avez-vous faite en travaillant sur vos livres pour enfants, Tommy Ungerer? Parce qu'il y a de l'innovation, il y a des recherches, il y a des inventions à chaque album.
Alors, pour moi, d'avoir un seul style, c'est affreusement ennuyeux. C'est-à-dire que chaque livre, chaque histoire, je dois trouver un style qui soit adapté à cette histoire. C'est toujours une exploration.
Et vous avez des souvenirs à certains albums, à certains livres pour enfants, d'avoir ressenti comme Archimède, Eureka, et d'avoir trouvé quelque chose associé à un livre en particulier?
Ah non, c'est constamment, ça va au fur et à mesure. D'abord, je conçois l'histoire. C'est-à-dire qu'en principe, quand même, à la base, j'écris quand même déjà l'histoire. Et ensuite, il y a les images. Et au fur et à mesure qu'elles se développent, j'ajoute des détails. Là, il faut voir mon influence de Dubout, par exemple. Par exemple, même dans Monsieur Racine, dans une scène dans la foule, il y a des masses de choses qui se passent. Il y a un vagabond avec son baluchon sur le dos, et dans ce baluchon, il y a un pied avec un peu ensanglanté qui sort du baluchon. Alors on m'a demandé pourquoi, mais alors j'ai dû inventer, ça m'est venu comme ça, mais après ça j'ai dit, ah mais vous savez, c'est comme avec une automobile, elle a bien besoin d'une roue de secours, et un vagabond, ben, il fait des kilomètres, il a besoin d'un pied de rechange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans ces détails, chaque enfant peut interpréter, et puis ça pousse aussi les enfants à poser des questions à leurs parents. Et alors, à ce moment-là, dans un livre, je mets des robinets partout. Ça me prend simplement de foutre des robinets partout. On me dit, pourquoi est-ce qu'il y a des robinets? Je peux pas vous le dire. Ça m'est passé par la tête. Mais c'est un peu un défi. Il faut quand même soigner l'absurde. Le monde est absurde et je pense qu'il faut surtout pas être hypocrite avec les enfants. Quand il faut que vous posez une question, vous leur donnez une réponse directe. Alors c'est là où c'est vraiment où je dis que vraiment l'éducation c'est pour moi une chose vraiment essentielle, n'est-ce pas? Je pense que tout commence par l'éducation, toute une société est formée, formulée par l'éducation que l'on donne aux enfants. Et là justement j'avais ce grand projet qui avait été adopté par Jacques Lang parce que j'étais quand même chargé de mission au ministère de la Culture et ensuite au ministère de l'Éducation nationale. Et là, ce projet qui me tient encore à cœur parce qu'il n'a pas abouti, ça avait déjà commencé en France parce qu'il faut toujours un pays qui donne l'exemple. C'est-à-dire d'enseigner le respect dès le jardin d'enfants, dès l'école primaire. Moi, je me rappelle, c'était encore avant la guerre quand nous étions français, j'avais un livre d'école où on disait qu'il ne fallait pas piétiner les champs de blé. Et cette belle phrase qui me restait toute la vie, enfant, ne tue pas le pain sur sa tige, comme c'est beau. Vous voyez ce que... Eh bien, je vous assure que je ne laisse jamais un morceau de pain derrière moi, je vide toujours mon assiette. C'est donc le respect de la nourriture. Et une fois que vous avez la liste des respects, il y a le respect des races, le respect des religions, le respect de la nature, le respect des vieux, même le respect de l'argent. C'est toujours le grand problème, c'est que quand on lance une chose pareille, tout ça c'est très bien, mais alors tout à coup il y a des élections, et alors il y a un ministre à 3 jours pour vider ses bureaux, sans même discuter des dossiers importants avec le ministre qui vient ensuite, donc ce projet n'a pas abouti, et ça me turlupine, parce que je n'aime pas le travail qui n'est pas fini, quoi, interrompu. Et c'est quand même une idée que je voudrais quand même encore relancer, c'est enseigner aux enfants le respect. Parce que la paix n'existe pas sans respect.
Vous êtes à certains égards un grand enfant, Tommy Ungerer, et en particulier quand on constate l'imposante, l'étonnante collection de jouets que vous avez amassé toute une partie de votre vie. Or, dans le récit de votre enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, à la guerre comme à la guerre, vous commencez ainsi « Ma mère ne jetait rien ». Alors, est-ce que c'est à cause ou grâce à votre mère que vous avez ainsi accumulé les jouets? Ou peut-être, tout à l'heure, vous donniez une piste en disant que, enfant, plus petit que vos aînés, vous étiez le jouet de la famille?
Oui, ben tout ça joue un rôle, hein. Tout ça joue un rôle. Je suis devenu, mon père était aussi un collectionneur passionné, et je le suis devenu aussi. Mais mes collections sont, vous savez, c'est comme à l'époque quand je faisais des cerfs-volants. Un jour, je les ai tous brûlés. Une collection me sert tant qu'elle m'inspire, et j'ai quand même accumulé une collection très, tout à fait énorme que j'ai donné à la ville de Strasbourg. Et c'est quand même destiné un jour à un musée pédagogique. Bon, j'ai déjà mon musée à moi, je peux pas tout avoir d'un même coup, mais quand même le jouet aussi en soi reflète toute une société, même tous les fanatismes.
Et vous étiez fanatique, notamment des rouleaux compresseurs.
Oui. Mais alors on les retrouve quand dans Papa Snap, n'est-ce pas? On retrouve beaucoup de mes jouets, de la Bugatti, etc. Et alors aussi l'autre aspect, n'est-ce pas, du jouet, c'est la mécanique. C'est ça qui est passionnant. Il y a aussi des jouets dont j'ai fait des copies parce que je ne trouvais pas le jouet là. J'ai fait un grand omnibus avec un escalier qui monte. Et alors là, on voit que c'est un faux parce que je n'ai pas pu trouver les roues. J'avais quand même le mécanisme d'origine. Alors en tôle, j'ai tout découpé, j'ai tout soudé. Et alors pour avoir les roues, ce que j'ai fait, j'ai pris des anneaux de rideau en bois. Et puis je les ai perforés par l'extérieur pour introduire ensuite les rayons. Mais on voit que ce ne sont pas les roues d'origine quand même. Donc c'est-à-dire que j'ai fait aussi beaucoup de design, de jouets et de choses comme ça. Mais c'est surtout la notion de la mécanique. Et dans ce musée, je voudrais aussi que ce soit dans ce centre pédagogique, un endroit où les enfants viennent réparer leurs jouets ou viennent fabriquer leurs propres jouets. C'est-à-dire, moi, dans le fond, on ne devrait pas donner de jouets aux enfants. La première chose qu'on doit leur donner, c'est un canif suisse et ensuite des outils. C'est tellement important de savoir utiliser ses mains. Je dis toujours, au bout de chaque doigt, il y a une petite cervelle. Et les enfants, c'est incroyable, donnez-leur quelques bouts de bois. Vous rendez compte, un enfant, moi je sais que j'ai enseigné à faire la soudure à mes enfants à l'âge de 6 ans. Et même ma fille, elle répare n'importe quoi. C'est vachement utile dans la vie de pouvoir réparer. Pas seulement ça, mais ça donne place à la fantaisie. C'est archi facile de prendre une boîte de conserve, de souder là-dessus un tube. Vous savez, la tôle, pour un enfant, la tôle d'une boîte de conserve se découpe avec des ciseaux. Bon, il faut quand même faire un peu attention, mais ça se découpe comme du papier. Et alors, il suffit de faire un point de soudure, mais c'est miraculeux pour un enfant. Ça, c'est de la créativité.
Et comment expliquez-vous, Tommy Ungerer, que, en 1975, en particulier, vous ayez donné tous vos jouets au musée de Strasbourg? Qu'est-ce qui vous a décidé à abandonner ce baluchon?
C'est encore un exorcisme. Vous savez, les collections, ça devient des manies et on en devient l'esclave. C'est une façon quand vous avez un appendicite, il faut bien s'en débarrasser. C'est un peu la même chose. Il faut se débarrasser de ces choses-là parce que sinon on devient esclave. Ça devient une obsession. Alors je passe de collection, je collectionne de tout en fin de compte, que ce soit même des instruments médicaux. Alors il y a énormément de choses que je ne jette rien non plus. J'ai mes vieux habits, ces choses-là. Et alors j'utilise énormément de ces choses-là dans mes objets. Bon, on appelle ça des sculptures, mais bon, ce sera des sculptures, mais j'utilise tout ce qui me tombe sous la main en fin de compte. Il y a aussi un élément de curiosité. Une fois que ma curiosité est satisfaite, ou bien que c'est un petit peu quand même, en fin de compte, comme un labyrinthe, on passe d'un corridor à l'autre. Et puis, finalement, maintenant, avec l'âge, maintenant, je ne suis plus obsédé par la collection. Ça, oui. C'est fini. Je suis quand même assez libéré de ce côté-là.
Étonnamment, Tommy Ungerer, au moment à peu près où vous donnez une grande partie de vos jouets au musée de Strasbourg, vous cessez aussi pendant 20 ans d'écrire pour la jeunesse entre 1974 et 1994. Qu'est-ce qui vous a décidé de la même façon? C'est quelque chose de commun?
Parce que j'étais écœuré de ce monde de livres d'enfants, justement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de livres d'enfants? Écoutez, l'ancien petit Larousse illustré suffisait avec toutes ces illustrations pour tout apprendre. Donc, on donne aux enfants, d'abord, il est essentiel de lire aux enfants, de lire à haute voix, et de leur lire des ouvrages qui sont en avance sur leur âge, afin qu'ils demandent qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce mot-là. C'est essentiel de leur lire. Et bon, il y a quand même quelques classiques, cet accord. Mais Par exemple, j'ai toujours trouvé les Tintin et Milou formidables, parce qu'on apprend des masses de choses là-dedans. C'est des livres qui servent à quelque chose. Mais pour moi, la chose complètement incroyable, que je n'arrive pas, moi, je m'en remets pas, parce que moi, dès que j'ai fini un livre, c'est comme si j'avais satisfait un besoin, et je tire sur la chasse, et puis je ne veux plus le voir. Donc la plupart de mes livres, pendant des années, ça m'a gêné. Et maintenant, ces livres, plus que jamais, sont traduits en plus de 30 langues. C'est complètement. Mais surtout au Japon. J'étais au Japon aussi. Alors là, je crois que rien que les Trois Brigands au Japon se sont vendus à 700 000 exemplaires, vous vous rendez compte? J'étais au Japon, puis j'ai évidemment tenu une conférence qui était traduite. Je leur dis que si mes livres continuent à se vendre si bien au Japon, j'achèterai la Mandchourie et j'en ferai cadeau. Alors là, on vous dit vraiment qu'ils ont rigolé jaune.
Est-ce que vous pouvez nous parler, Tommy Ungerer, de votre dernier livre pour enfants, Zloty, et nous raconter la genèse, l'histoire de cet album qui rassemble, dites-vous, un peu toutes les facettes de votre imaginaire?
Bon, ben, j'ai continué parce que je viens de finir un livre sur l'Irlande qui est un livre tout à fait différent comme livre d'enfant parce que c'est un livre uniquement d'atmosphère et de c'est mais mon dernier livre Zloty, c'est un peu la somme de tous les autres livres. C'est d'abord avant tout un livre sur la relativité. C'est donc une petite fillette un petit peu sur sa Vespa qui traverse la forêt, donc comme la petite Chaperon Rouge, hein, ça. Et alors elle renverse un nain. Mais un grand nain. Alors là-dessus, il y a un autre qui a un bonhomme qui se la ramène, et c'est un petit géant. Ils se rendent compte que tous les trois, ils ont la même, ils ont la même, le même format. Alors il y a des aventures. Alors il y a tout y passe. Les nains distillent des herbes. Alors je tape un peu dans la botanique. Là, je suis très fier parce que toutes les plantes, je les ai faites sans référence. C'est encore une passion, la botanique aussi. Je fais tout avec passion. La minéralogie, la géologie. Alors ensuite, elle renverse le loup qu'elle ramène sur ses épaules. Ce pauvre loup est donc apprivoisé par la suite. Et ensuite, par la suite, alors il y a un tremblement de terre. Et alors c'est là, à ce moment-là, où les nains viennent de la forêt avec les médicaments et les géants viennent avec toutes leurs grosses provisions. Et alors pour le déblayage, n'est-ce pas, c'est le loup qui trouve les corps ensevelis. Ce sont les petits nains qui arrivent à aller dans les ruines et ce sont les géants qui arrivent en grande brassée à débarrasser les ruines. Et après ça, ils restent là sur place, la ville est reconstruite et les nains, les géants et le loup ont leur place dans la société. Toujours chacun a quelque chose que l'autre n'a pas, et chacun a sa place dans la société.
Vous parliez de la géologie, de la botanique, vous avez étudié la minéralogie, vous le disiez, l'anatomie, tout ce programme, Tommy Ungerer, ça me fait penser, moi, à l'éducation humaniste de Gargantua.
Oui,
Est-ce qu'il y a quelque chose comme
absolument,
ça?
c'est très juste. Dans le fond, ma grande chance, c'est de ne pas avoir eu de ne pas avoir fini le bachot et de ne pas pouvoir aller à l'université. Donc, je me suis éduqué moi-même. Et comme j'ai toujours un lecteur passionné, je dirais que quand même la chose dans ma vie qui tient la plus grande importance, c'est le livre. C'est le livre, que ce soit la littérature, que ce soit n'importe quoi, l'histoire, c'est le livre pour moi. Et c'est ça vraiment qui et là, je dois vraiment dire qu'en France, il y a un réseau de bibliothèques le meilleur que je connaisse, comparé aux États-Unis, à l'Angleterre, ou n'importe quel autre pays. C'est tout à fait remarquable.
Et donc, du coup, dans vos propres livres, Tommy Ungerer, dans vos propres livres, il y a cette volonté de mettre un peu de géologie, un peu de botanique, pour aiguiser
Et
la
la mécanique, n'est-ce
curiosité.
pas? J'ai commencé avec les Mélops. Alors, le premier Mélops, ils construisent un avion. Mais j'ai fait la maquette de cet avion, je l'ai construit pour voir s'il pouvait voler, hein. C'est dommage, ça c'est... Je sais pas où c'est, ça a disparu. Et ensuite, ils vont chercher de l'huile. Alors, je montre comme avec les fossiles, on avait, etc. Ensuite, ils font de la spéléologie. J'en ai fait aussi avec l'abbé Glory, après la guerre de la spéléologie. Ça, c'était une expérience passionnante. J'en ai encore des cauchemars, d'ailleurs. Vous savez, parce que en spéléologie, on a toujours besoin de jeunes qui sont assez fluets pour aller dans les, in the cracks, dans les trucs, et d'aller là, la tête, la première, dans une obscurité étoiles avec juste une corde au pied pour vous tirer de nouveau, pour vous sortir, s'il n'y a pas d'issue. Là, j'en ai gardé des cauchemars. Alors, il y a les Mélops qui font ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Enfin bon, voilà. Donc, toutes ces expériences se retrouvent un peu partout, un peu partout.
Et donc, vous vous sentez comme un petit géant, comme Gargantua, vous, dans le monde depuis votre enfance?
Ah, il faudrait que je réfléchisse, mais je dirais que c'est une bonne idée. Vous avez là une très bonne... Oui, c'est ça. C'est vrai, j'ai toujours gardé, je me rappelle quand j'étais enfant, ma mère un jour nous a emmenés au cinéma et j'étais tout petit et dans la file d'attente, j'étais tout petit, je regardais là-haut, il y avait tous les adultes. Ça m'a déjà donné une peur d'être pris comme dans cette foule et de regarder vers le haut. Et de regarder vers le haut, les gens avec les... Il faut se mettre à la place des enfants. Hein, comme on est gigantesque pour un enfant, on est effrayant. C'est quand même effrayant. Et je pense que c'est resté quand même un petit peu comme ça. J'ai d'ailleurs encore l'agoraphobie, hein, surtout avec l'âge maintenant. J'ai perdu un œil. Je n'ai aucun problème lorsque la foule est en bas, par exemple. Si je fais un discours et qu'il y a du monde là en bas, je viens de Londres, où avec une collègue, nous avons adressé 900 enfants. 900 enfants dans une salle. Là, mais quand je suis dans une foule et que les gens, tout à coup, les gens, souvent peuvent prendre des proportions disproportionnées. Je me trouve comme un enfant. Et d'autres, mais alors que quand je suis sur scène, c'est moi le géant avec les petits en bas. Donc on en est de nouveau dans cette relativité. C'est très juste, c'est très bon la question. J'y avais pas songé.
Réalisation Anne Sécheret, François Connac. Prise de son Yann Frécy. Coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Tommy Ungerer en 2012.